Au cours de notre périple, au cours de notre descente de la Seine, nous avons traversé plusieurs paysages de Seine. Nous avons traversé la Bourgogne des grandes légendes, celle des abbayes, une terre au fond mystérieuse et prenante. Nous avons traversé Paris. Il y a une vallée de la Seine que nous n'avons pas vue jusqu'ici et que nous voyons ici maintenant devant nous à Elbeuf, et qui est la Seine industrielle, qui est une Seine des grandes manufactures, une Seine de l'effort des hommes, de l'exploitation aussi. Et c'est cette Seine que l'on voit à Elbeuf, dans laquelle je voudrais vous parler maintenant de la naissance d'un écrivain. C'est un jeune officier de liaison à l'armée britannique stationné dans les Flandres en 1915. Il dit dans une de ses lettres qu'il serait heureux au front si sa jeune femme ne l'inquiétait pas. Il lui écrit « Je t'aime, hélas. Je serais si tranquille ici, si je n'aimais personne. » Dans un livre écrit plus tard et qui lui vaudra sa célébrité, on peut lire ces vers de Mirliton qui serrent le cœur. « Ne me plains pas, je dormirai sans barcarolle et de mon cœur je nourrirai les herbes folles. Mais si par quelques soirs d'automne et de brouillard, pour ton visage de madone, tu veux le phare de cet air de mélancolie que j'aimais tant. Alors oublie que tu m'oublies. Pour un instant. » Bien des années plus tard, le jeune homme malheureux, devenu vieux, sera élu à l'Académie française. Tout concourt à la grandeur d'une des plus belles cérémonies de ce pays, écrira-t-il, l'ancienneté de l'édifice, l'étrangeté de sa forme, l'exiguïté de la salle, la qualité du public, l'appareil militaire, le vocabulaire traditionnel et parfois, j'aime le parfois, la qualité de l'éloquence. On dit qu'avant de mourir, on voit défiler sa vie en un instant. J'ignore s'il en va de même au moment d'être reçu à l'Académie française. Si le jeune homme dont je parle, qui s'appelait Émile Herzog, a vu défiler la sienne, il a sûrement revu des images de l'endroit où nous sommes à présent, Vincent Deck et moi. Car Émile Herzog est né ici, à Elbeuf, au bord de la Seine, le 26 juillet 1885. Il était l'héritier d'une famille d'industriels du drap venus d'Alsace s'installer dans cette ville, vouée en effet au drap depuis l'Ancien Régime. Et nous sommes au 25 de la rue Camille Randouin, où s'élevait leur usine, les établissements Frankel-Herzog, qui, au fait de leur réussite, employaient 1500 ouvriers sur près de 20 000 mètres carrés. Nombre de bâtiments ont disparu, mais il reste des ateliers qu'on voit devant nous en briques bicolores avec des pilastres plats surmontés d'initiales. Tout ce centre où nous sommes à présent est un monument d'architecture industrielle avec les grandes manufactures Godet, Grandin ou Clarençon. On y respire un air anglais, un air victorien, celui du monde du fer, du drap, de l'argent et de la morale, où les plaisanteries n'étaient pas de mise. Pour la famille Herzog, qui avait été chassé d'Alsace par l'annexion et qui était au surplus, comme on disait à l'époque, israélite, dans le temps de l'affaire Dreyfus, il n'y avait à aucun degré de quoi rire dans le monde tel qu'il était. Le jeune Herzog est donc né dans le pays mental de la reine Victoria. Et il n'est pas étonnant qu'il ait aimé les Anglais, leur consacrant son premier livre et traduisant le célèbre poème « If » de Kipling. Il les décevra ensuite lorsque, en 1940, il préférera partir en Amérique plutôt que de subir avec eux l'épreuve du Blitz. Et Churchill, qui l'avait aimé, dira cruellement « Nous croyions avoir un ami, mais nous n'avions qu'un client. » Vers 1910, le jeune Émile Herzog, c'est un peu le jeune homme riche de Larbeau, à cette différence près qu'héritier des sources de Vichy-Saint-Yor, Larbeau ne s'y intéressera jamais, alors qu'Émile Herzog, lui, connaîtra jusqu'au début de ses succès dans les lettres les joies de l'usine et des conseils d'administration. Il se sentira éminemment responsable. Et ce qu'il écrira par la suite sur le commandement des hommes ressemblera un peu à cet ouvrage éminemment grotesque qui s'appelle « Les propos de Barenton Confiseur » d'Auguste Deteuf, et que des générations de jeunes polytechniciens ont passionnément aimé. C'était, il est vrai, l'époque où l'on faisait argent avec de vraies choses, où l'on s'enrichissait non en délocalisant, mais à la vue de ceux qu'on exploitait, ce qui était de nature à stimuler les consciences sensibles. Aujourd'hui, on ne voit souvent personne, et les raisons sociales des grandes entreprises ont versé dans l'abstraction, portant ces noms bizarres de capote anglaise ou d'adolescente américaine, Engie, Aventis, Nexity, plutôt que ces bons vieux noms du capitalisme d'autrefois qui pouvaient faire rêver, les établissements Frankel-Herzog, les caoutchoucs de Padang, la compagnie de Suez. Il y aurait un essai vraiment à écrire sur la manière dont le capitalisme, comme la guerre, se cache au moment où il triomphe, mais peut-être Baudrillard a-t-il écrit cet essai, après tout. Quoi qu'il en soit, c'est la nostalgie qui nous étreint à Elbeuf, et la destinée du jeune Herzog n'a rien qui puisse la dissiper. À 20 ans, il est élégant, fin et riche, une sorte de Nissim de Camondo, sérieux et sensible, il se cherche. Il ne sait pas qu'il est voué à devenir le Zweig français, en moins douloureux, en moins prophétique. Il n'a renoncé à rien. Le ciel s'assombrit derrière les façades lourdes des villégiatures normandes où sa famille se repose son industrie, mais rien ne vient affecter les splendeurs irisées du monde bourgeois qui s'achève. Et puis Émile Herzog fait son service militaire. Au 74e d'infanterie à Rouen, et lorsqu'il en sort, c'était écrit, il s'occupe avec ses cousins de l'affaire familiale. Il maîtrise la fabrication du drap, il affronte des crises sociales, il négocie en Angleterre, et il en tirera la matière plus tard de ses livres anglais qui restent incomparables. Mais en 1909, il rencontre Jeanne Vanda de Siemkiewicz. On l'appelle Janine et il l'épouse en 1912. C'est la fille d'un aristocrate polonais et leur amour sera tragique. On peut en lire le récit dans un livre brûlant et précis, à tous égards remarquable, de Dominique Bonnat qui s'appelle « Il n'y a qu'un amour ». C'est un drame des bords de Seine, entre Elbeuf et Deauville, et la naissance d'un écrivain. Pas un immense écrivain peut-être, mais l'un de ceux dont les livres ont jalonné notre éveil à la conscience. Jeannine est incroyablement belle, grande, diaphane, étrangère et mystérieuse. Il se souvient de l'âme russe, cadeau d'un de ses professeurs de sixième, et il aurait peut-être pu dire comme Aragon « Elle avait la démarche légère et de longues jambes de fan, j'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant ». Elbeuf, besogneuse, industrielle, était son royaume. Il s'était fait à l'idée d'y vivre jusqu'à sa mort la vie d'un industriel de province, avec peut-être seulement de temps à autre la nostalgie de l'Alsace originelle. Le monde tourbillonnant qu'aime Jeannine le séduit, mais ne lui enlève pas le sérieux qu'il habite. Il déteste le Ritz et Rumpelmayer. Sa femme dépense sans compter. Quand vient la guerre, déjà quelque chose est brisé. Ainsi qu'elle le note dans son journal en anglais, un journal plein du sentiment de la tristesse et du vide qui pourrait illustrer l'idée du divertissement pascalien. Émile Herzog sert comme officier de liaison à la 8e division écossaise. Ses permissions sont amères. Ainsi qu'il arrive aux soldats, ainsi qu'il arriva à Apollinaire au temps de ses fiançailles avec Madeleine, il ne peut vivre en partie double lorsqu'il revient. Il est comme absent. Et lorsqu'il n'est pas là, elle s'étourdit, reçoit des roses blanches et des hommes lui font la cour. Dès qu'elle le peut, pendant qu'il traîne ses angoisses dans la boue des Flandres, elle part pour Deauville. Elle en aime tout. Et ses maillots de bain lui valent de nouveaux admirateurs. Pour Jeannine, les êtres se divisent en ennuyeux et amusants. Les Elbeviens sont ennuyeux, les Deauvillais sont amusants. Rien d'autre ne compte. Elle rencontre un jeune dandy américain et s'éprend de lui, il y en aura d'autres. L'amant quitte Deauville quand le mari y arrive en permission et, dit-elle, le mari est d'une humeur assommante. « Quand serai-je sage ?» écrit-elle dans son journal. Et quant à lui, il commence à écrire « pour oublier, dirait-on ». Tout le blessait aux entournures, l'idée de la vie à Elbeuf, l'usine, ce sérieux qui était le sien, la guerre des tranchées, la légèreté de Jeannine, la morsure de l'absence, l'idée de l'amour corrompu, éphémère. Tapant à deux doigts à présent sur la machine à écrire de l'état-major, il comprend que la littérature est le plus puissant et pour lui le seul des remèdes. Il peindra des soldats, des amants trahis, des maris trompés, des industriels, des pays qu'il aime, des hommes d'État étrangers. Il s'est écrit l'héritier d'un royaume de draps, il se donne un royaume de papier. Il sert sous l'uniforme, il doit demander à ses supérieurs l'autorisation de publier. Il le lui accorde à condition qu'il prenne un pseudonyme. Son cousin Frankel a été tué à l'ennemi en 1915, il en prendra le prénom, André. Il vient de traverser un village des Flandres qui s'appelle Mauroy. Il en aime, écrit Bonnat, la sonorité triste qui correspond à l'état de ses pensées, celle qu'on voit transparaître dans le poème que j'ai cité tout à l'heure. Dans Mauroy, dit-il, il y a mort, il s'appellera André Mauroy. C'est sous ce nom qu'il publiera Les silences du colonel Bram, Le cercle de famille, Climat, l'histoire d'Angleterre et la vie de Benjamin Disraeli, ce dandy juif et littéraire qui est devenu le premier ministre préféré de la reine Victoria, celle qui fit écrire sur sa tombe les mots d'un psaume « Les rois aiment celui qui parle juste ». Pendant ce temps, Jeannine part vers le sud, Paris subit les Zeppelins, la grosse Bertha, la grippe espagnole, elle déteste Elbeuf, Émile n'aime pas qu'elle aille à Deauville, elle aurait aimé l'Égypte, et la voilà sur la côte d'Azur. Si la fin n'était pas si tragique, on croirait une célèbre chanson de Brel à propos de Vesoul. À l'été 1918, il lui annonce qu'il écrira sur Chalet, lui fait remarquer qu'elle ne sait plus à qui elle adresse ses lettres, à Émile ou à André. Elle lui dit « Je voudrais revivre avec toi, je ne pense à rien d'autre ». Puis le ton des lettres change, elle se sent perdue, l'angoisse monte, lui ne voit rien. Préoccupé par ce nouveau livre qu'il commence à écrire et par la mort de son cousin Pierre Herzog, emporté par la grippe espagnole. Et puis ce sont deux lettres terribles où se conjuguent l'amour et le désarroi et où il lit cette phrase « Je ne veux pas être enterré au Cap d'Ail, toute seule ». Il reçoit le télégramme d'un médecin qu'il ne connaît pas, arrache à grand-peine une permission à son général et pour finir, Jeannine est internée à la clinique de la Malmaison. Elle en ressort près d'un an plus tard, s'étourdit de fêtes et de rencontres pendant qu'il écrit et met au monde deux fils dont elle lui avoue qu'ils ne sont pas de lui. Il met toute sa fierté à accepter. Il continuera d'écrire. Il ne croit plus qu'à la consolation des mondes imaginaires. Pour lui, il n'y a pas d'autre issue. Elle lit à présent ses livres. En lisant La vie de Chalet, lui dira qu'elle ne savait pas qu'il pouvait parler aussi finement des femmes, comme s'il les comprenait. Mais pour ajouter qu'il aurait pu s'adresser à lui-même, les critiques qu'il adresse à Chalet, plus occupé de son œuvre que de ses amours. Il comprend tout, mais dans les livres. Et c'est un artiste pour lequel désormais, comme le dit Blake, qu'il cite en exergue de La vie de Chalet, Le jardin de l'amour, est empli de tombes. Jeannine, revenue de Deauville à l'été de 23, brûle ses lettres devant lui en silence. On la trouve plus belle, plus élégante, plus triste que jamais. Un soir, la fièvre la prend. Le professeur Lévi Solal diagnostique une septicémie, elle meurt en deux jours. « J'avais trouvé la reine dans le vaste monde », écrit Mauroy. « Je l'avais choisie, conquise, perdue ». Il la fera enterrer dans une tombe où il viendra souvent lui parler, mais où il ne la rejoindra pas. Et c'est ainsi qu'est né le plus célèbre d'écrivain d'Elbeuf, cette ville où nous sommes. cet écrivain qui a tout de même apporté par ses livres, comme il le dit à la fin de son Israeli, dans un monde hostile et froid, une éternelle jeunesse de cœur.